Retrouvez-nous sur radiojudaica.be.
Chers auditeurs, je vous souhaite la bienvenue à votre rendez-vous musical Appassionato sur Radio Judaica 90.2 FM que vous pouvez également suivre en streaming sur notre site radiojudaica.be. Nous avons l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui le ténor Reinout van Mechelen qui vient nous présenter sa discographie. Bonjour Reinout.
Bonjour.
Alors je résume votre parcours. Vous êtes diplômé en 2012 du Conservatoire Royal de Bruxelles dans la classe de Dina Grossberger. Votre carrière avait démarré bien avant puisque déjà en 2007 vous aviez participé à l'Académie baroque européenne d'Ambronay sous la direction musicale d'Hervé Niquet. En 2011, vous intégrez le Jardin des Voix de William Christie et Paul Agnew et vous vous imposez rapidement comme soliste régulier des arts florissants. Avec eux, vous vous produisez sur des scènes telles que le Festival d'Aix-en-Provence, le Festival d'Édimbourg, le Château de Versailles, le Théâtre du Bolshoï de Moscou, le Royal Albert Hall et le Barbican Centre à Londres, le Palais des Beaux-Arts de Bruxelles ou la Philharmonie de Paris. En 2014, vous chantez pour la première fois l'Évangéliste de la Passion selon Saint Jean de Jean-Sébastien Bach avec le Royal Liverpool Philharmonic. En 2016-2017, vous faites vos débuts à l'Opéra de Zurich dans le rôle de Jason de Médée de Charpentier sous la direction de William Christie. Vous êtes également Belmonte dans l'Enlèvement au Sérail de Mozart avec l'Orchestre de Chambre de Paris et Gérard de Lacmé avec l'Orchestre de la Radio Bavaroise, deux prises de rôle qui marquent un élargissement significatif de votre répertoire. Vous fondez en 2016 votre propre ensemble à Nocte Temporis et effectuez des tournées triomphales avec des projets consacrés aux personnages de Duménil, Clérambeau, Jean-Sébastien Bach ou aux Dublin Gardens. Vous êtes déjà lauréat de nombreux prix et notamment du prix Cecilia pour le meilleur enregistrement de l'année, des chocs du magazine Classica, de Diapason d'or, de Teen van Clara et de bien d'autres distinctions. Je vous propose de débuter notre entretien par un air de la canta « Herr Christ der eine große Sohn » de Jean-Sébastien Bach. Thank you. Un air de la cantate Herr Christ der Einge, Côte Zone de Jean-Sébastien Bach dans l'interprétation de notre invité Reinout van Mechelen. Dis-nous Reinout, comment avez-vous découvert votre voix?
Je pense que c'est ma mère en fait, dans le sens que je viens d'une famille assez musicale, surtout les oncles étant du côté de mon père. Et du coup on faisait de la musique, on chantait ensemble et c'est ma mère qui relativement vite avait dit il faudrait que tu cherches un chœur pour aller chanter comme enfant. Ce que j'ai fait relativement tôt, je pense que j'avais 10 ans quand je suis allé au chœur à Kesselau, à Louvain, d'où je viens, et j'ai chanté tout le temps. J'ai plus arrêté parce que donc j'avais toutes les semaines le chœur. Après, j'ai fait même plusieurs chœurs. Et j'ai cette étrangeté dans ma vie. Ce qui est assez génial, c'est que je suis passé de choriste amateur vers soliste professionnel presque sans jamais m'arrêter, en fait. Donc, c'est super parce que la musique a toujours eu sa place et sous différentes formes et c'est génial.
Et vos parents étaient musiciens eux-mêmes ?
Non, c'est mon père, il est musicien amateur, mais c'est surtout son frère, donc mon oncle, et ma tante, la sœur de mon père, qui sont tous les deux musiciens professionnels. Donc, c'était jamais très loin.
Comment est-ce que vous définiriez votre tessiture ? Haut de contre, ténor léger, ténor di grazia ?
En fait, je suis ténor. Je suis du genre à pas, quand il y a maintenant sur Wikipédia toutes les formes possibles des voix. Et du coup, un tel doit chanter un tel et un tel doit chanter un tel. Moi, je suis ténor. J'ai une facilité dans les aigus que j'ai aussi développé avec une certaine technique. Et du coup, je chante les répertoires de haut de contre qui étaient tout simplement au XVIIe et XVIIIe siècle en France, des ténors, on les appelait les haut de contre. Et c'était des ténors avec une facilité dans les aigus. Mais c'était quand même très clairement des ténors. Après, ils chantaient parfois la deuxième ligne dans le chœur, ce qui prête à beaucoup de confusion. Mais donc, je suis ténor qui chante dans le 17e, 18e français les parties de haute contre. Ténor léger, lyrique léger. Je ne sais pas à quel point ma voix est légère. Le seul vrai rôle, parce que vous avez dit que j'ai chanté Belmonte, mais c'était dans quelque chose de... pour les enfants, donc c'était pas le rôle en entier, mais j'ai chanté Tamino en entier à la Monnaie, et quand je lis tous les rôles de Mozart, soi-disant, c'est pour la voix la plus lourde, ce que je crois pas. Donc voilà, je crois que je suis un ténor. Je suis un ténor, je suis un chanteur, je suis un musicien.
C'est ça, c'est point à la ligne, il faut pas de classification.
Ouais, Bon, normalement, j'allais chanter Paris dans la Belle Hélène en décembre dernier. Bon, pour des raisons évidentes, ça ne s'est pas fait. Okay. J'ai chanté Nadir dans La Pêcheur de Perles. Donc, c'est des choses 19e, plutôt léger. Mais voilà, je découvre tous les jours encore.
Et alors, dans votre jeunesse, quels étaient vos héros musicaux ? Qui étaient les chanteurs que vous écoutiez ?
En fait, peut-être pour ça aussi que j'ai vraiment commencé par la musique ancienne. J'écoutais beaucoup la musique ancienne. Donc, on avait aussi un enregistrement de la flûte enchantée que je chantais avec. On avait un enregistrement de la Saint-Mathieu, même deux, à chaque fois de Philippe Hervaig, avec qui je travaille maintenant. J'avais pas vraiment de héros comme ça, sauf c'était Fritz Wunderlich, quand même, le Tamino sur notre flûte enchantée. Donc il y avait des gens comme ça, mais aussi beaucoup la musique Renaissance, donc où la voix soliste est moins, où c'est vraiment le mélange des voix. Donc j'en avais pas juste un, mais bon, Fritz Wunderlich, c'est quand même quelqu'un que je cite beaucoup. Après, Howard Crook, avec qui j'ai pris quelques cours, qui a fait beaucoup de Bach, mais aussi beaucoup de musique française. C'était l'évangéliste sur une passion qu'on avait à la maison. Donc, c'est aussi quelqu'un comme ça qui était là.
Ouais. Alors, je vous propose de continuer la découverte de votre parcours. Et nous allons écouter My Nanny O, un extrait de l'album de Dublin Gardens. My Nanny O, un extrait de l'album de Dublin Gardens, un album paru chez Alpha avec notre invité Reinout van Mechelen. Reinout, en quoi consiste cet album Dublin Gardens?
En fait, cet album, c'est la première fois que j'ai partagé la direction. Bon, après, on n'est que 5 personnes, donc c'est pas comme si quelqu'un est en train de diriger des gens avec sa main, mais c'est quand même vraiment le projet de ma femme, Anna Besson, la flûtiste de l'ensemble, qui est passionnée de musique irlandaise depuis qu'elle a 11 ans, voire moins, je crois. Musique irlandaise traditionnelle, donc la musique folklorique. Et ce qui l'intéressait beaucoup depuis très longtemps, c'est la musique historique irlandaise. Ce qui n'est pas facile, c'est donc la musique historique, c'est-à-dire la musique 18e, l'époque que donc elle joue le traverso, un instrument qui a gagné beaucoup en popularité dans le 18e siècle.
Et qui s'apparente à la flûte, en fait. Hein.
Oui, donc c'est comme la flûte traversière, mais en bois, sans clé et tout ça. Donc c'est cet instrument-là. Et donc, comment aurait été cette musique irlandaise au XVIIIe siècle? Ce qui est difficile, c'est que bien évidemment, de musique folklorique, c'est une vraie tradition orale. Donc, on n'a pas toujours toutes les sources. Mais elle a quand même trouvé beaucoup de sources au point que cette musique folklorique commence à se mélanger avec quelque chose de plus bourgeois. Quand les gens vont plus les jouer aussi dans les salons, parce qu'à l'époque, bon, on n'achetait pas de disques, on allait acheter une partition pour pouvoir la jouer à la maison. Et donc, vraiment à ce moment, la musique folklorique qui devient un peu, qui se bourgeoisise un peu, c'est à ce point qu'on a fait, c'est surtout elle qui a créé ce programme de Dublin Gardens. Par exemple, la musique folklorique, en général, il n'y a pas de basse, c'est-à-dire on joue la mélodie. Nous, dans la musique des 17e et 18e siècles, il y a ce qu'on appelle une basse continue. Donc, on écrit une ligne de basse avec des chiffres qui donnent à la personne qui joue. L'instrument à accord, c'est-à-dire le clavecin ou le luth, il sait ce qu'il doit jouer comme accord. Ça, c'était juste à ce moment dans la musique folklorique qu'il n'y avait pas, sauf pour la rendre accessible à ces gens-là. On commençait à mettre des basses, il y a parti par là des choses qu'on a dû arranger, qu'on a fait nous-mêmes, ou on n'a pas rajouté de basses. Il y a une longue pièce que je chante tout seul, de Seanos, donc de chant vraiment en gaélique, en irlandais. Donc c'est vraiment une recherche comme ça, une espèce de soirée imaginaire dans le château de Dublin et les jardins de Dublin Gardens, c'est les jardins autour de ce château à Dublin. Et c'est vraiment cet imaginaire qui a fait ça, où il y a vraiment ces deux mondes qui vont ensemble. On a constitué un programme de ça. Et c'était des. Bon, je pense que c'est un chouette CD, mais c'est surtout.
Elle est formidable, elle est
Quand on
vraiment.
fait des concerts avec ce programme, il y a une espèce d'énergie avec aussi toutes les autres musiciens qui sont là. C'est absolument formidable de pouvoir jouer ça et de toucher des gens. Bon, ça fait un moment maintenant, mais qu'on a de. Voilà, c'est un chouette programme pour ça.
Alors, je vous propose maintenant de passer à autre chose. Voici un extrait donc d'un autre album, Doux repos de l'indifférence de Louis-Nicolas Clérambault. Reinhold van Mechelen est accompagné de son ensemble A Nocte Temporis.
Thank you.
Doux repos de l'indifférence de Louis-Nicolas Clérambeau, notre invité, Reinhold van Mechelen, était accompagné de son ensemble à Nocte Temporis. Reinhold, qui était Louis-Nicolas Clérambeau?
C'est un compositeur début 18e en France. Apparemment, j'ai lu sa biographie, je pense qu'il se trouve que sa mère était même une Flamande, ce qui est quand même assez drôle oui. pour moi, qui... que je suis flamand aussi, mais c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas beaucoup. Donc en France, bien évidemment, il y a le grand Lully qui a fait l'ombre sur tous ses contemporains, les gens après lui. Il y a Charpentier qui est un peu connu, et après, beaucoup plus tard, il y a Rameau. Et entre ces deux-là, déjà, les compositeurs ne sont pas très connus, et surtout Nicolas Clérambeau, parce que en fait, Louis-Nicolas a... Apparemment, c'est plutôt Nicolas Clérambeau, selon les récentes recherches. C'était un compositeur qui écrivait surtout de la musique à l'église où il travaillait à Paris. Ouais, donc récemment, il a fait des œuvres, son Te Deum et l'histoire de la femme adultère, donc des œuvres sacrées qu'il a écrites. Il a écrit beaucoup pour la chambre parce qu'il a été à la chambre du roi. Il a composé donc beaucoup de cantates, de musique de chambre, mais il a seulement écrit une pastorale, donc une espèce d'opéra qui n'est pas très connue. Donc vu qu'il n'a pas été très actif à l'opéra, il n'est pas très connu. Sauf que sa musique, pour moi, est assez clé entre Lully et Rameau, et Rameau, comme on sent déjà la richesse harmonique qui devient de plus en plus grande et toutes les couleurs qu'il essaye quand même dans les cantates. Il y a finalement très peu d'instruments où il met quand même beaucoup de couleurs. Et donc, pour moi, quand je savais « Oh, je veux faire quelque chose avec des cantates françaises », c'était assez évident de commencer avec des cantates de lui, vu qu'il est quand même vraiment très fort et il met aussi très en valeur dans certains cantates comme Pyramétis B, la voix de haute contre, donc la voix des ténors aigus. Et donc, rien que cet air doux repos de l'indifférence, c'est tellement fort comme musique que c'est quand on lit des pièces, bien évidemment, quand on enregistre un programme de 70 minutes, il n'y a jamais 70 minutes qui ont la même qualité, mais c'est avec ce type d'air qu'on dit bah, il faut qu'on enregistre cette cantate. C'est comme ça qu'on choisit.
Vous enregistrez Lully, Clérambault, De Marais, Charpentier. Qu'est-ce qui vous séduit dans ce répertoire français et cette période?
C'est sans doute parce que ma voix m'a poussé d'aller vers cette musique-là. Et aussi, mais même avant que j'avais découvert cette voix de haute contre à la française, je me rappelle j'étais allé voir Le Roi Danse au cinéma et ça m'avait beaucoup impressionné. Il y a dans cette musique française parfois une simplicité que certains gens, du coup, ils n'aiment pas trop la musique parce que c'est trop simple. Quelque chose. Moi, j'aime beaucoup les couleurs qu'il y a dedans et aussi c'est une musique qui est très proche du texte. Ce que j'aime beaucoup, c'est beaucoup moins une musique qui est de la voix pour de la voix, comme il y a beaucoup dans la musique baroque, ce qui est agréable aussi, mais cette proximité du texte et de la poésie, ça me plaît beaucoup dans cette musique française. Et aussi, c'est une place que j'essaie de prendre parce que je trouve que cette musique est trop peu défendue en dehors de la France, déjà en France, mais aussi en dehors de la France. Donc en Belgique, on reste un peu loin, surtout bien évidemment en Flandre. Mais je trouve que cette musique a vraiment tout ce qu'il faut pour bien pouvoir la défendre. Et c'est pour ça que je prends un peu ce rôle-là.
Bonjour Didier, bonjour à tous.
Ça va bien ce mardi?
Ça va très bien.
Et aujourd'hui, vous n'êtes pas venu seul, vous êtes...
discographie avec un extrait de l'Armide de Lully. Plus j'observe ces lieux, plus je les admire. Et ici aussi, Reinhold van Mechelen est entouré de l'ensemble à Nocte Temporis.
Plus aimable fleur.
Plus j'observe ces lieux, plus je les admire. De l'Army de Lully, notre invité, Reinhold van Mechelen, était entouré de son ensemble à Nocte Temporis. Alors, Reinhold, vous avez consacré un album à Louis Gaulard du Ménil. Qui était-il ?
C'était le Haute-Contre la Haute-Contre. C'est d'ailleurs très compliqué parce qu'on dit la Haute-Contre, c'est la voix de Haute-Contre, mais du coup, les gens vont penser que c'est une femme, sauf que c'est bien un homme. Donc, qui a chanté les derniers rôles de la carrière de Lully et après les successeurs de Lully, vu que, bon, désolé, ça devient un peu technique, mais Lully s'était arrangé avec le roi qu'il était le seul qui avait les droits en France à ce moment-là d'écrire des opéras. Donc, on ne peut pas, c'est impossible de chanter des opéras français d'exactement la même époque parce que c'était interdit. Donc, je voulais faire quelque chose autour de la voix d'Haute-Contre. Je voulais le faire en forme de trilogie. Donc, on a déjà enregistré le deuxième volet, mais qui va sortir qu'en fin de cette année. Il y aura donc deuxième volet qui sera plutôt époque Rameau. Et troisième volet, l'époque que Gluck était à Paris. Et c'est plutôt un des derniers Haute-Contre. Mais donc, le premier que j'ai choisi, c'était ceux du Ménil. Parce que quand j'ai regardé les gens qui ont chanté du Lully, si je voulais chanter autre chose que Lully, il fallait bien que je choisisse celui-là parce qu'il a aussi continué sa carrière après la mort de Lully. Et donc, c'était Haute-Contre. On ne peut pas dire qu'il était un brillant musicien parce qu'il ne savait pas lire les notes. C'est un chef de cuisine que l'histoire veut que Lully l'a entendu chanter dans la cuisine et du coup, Lully l'a formé. Il n'a jamais réussi à former sa lecture musicale, mais donc il apprenait les rôles à ceux du Ménil. Donc il avait une belle voix. Après, c'est un personnage. Apparemment, il n'était pas toujours très bien dans le sens qu'il y a des histoires comme quoi il a été bourré sur scène et des choses comme ça. Donc haut en couleur, mais qui a chanté beaucoup de ses rôles très importants comme Renaud dans Armide ou Amadis. Ou encore Jason dans Médée, c'était aussi lui qui a créé ce rôle, donc qui a chanté cette musique pour la première fois.
Du Ménil était Haute-Contre. Est-ce que les Haute-Contre utilisent la voix de Fausset comme les contre-ténors ?
En fait, le contre-ténor utilise exactement comme vous dites la voix de Fausset, donc un homme qui veut imiter une femme pour parler va utiliser sa voix de Fausset. C'est ce qu'utilisent aujourd'hui les contre-ténors. Mais en fait, la voix de contre-ténor, historiquement, a eu très peu de place parce qu'il y avait les castrats. Donc en Italie, il y avait les castrats qui chantaient les grands rôles, qui sont après allés en Angleterre. Il y en avait un peu en Allemagne. Mais en France, les castrats, c'était bien pour le cirque, mais ils n'aimaient pas trop dans la musique. Il y a quelques exceptions, mais c'était plutôt donc les voix masculines, les voix de poitrine qu'on faisait chanter dans les aigus. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y avait jamais aucune note chantée en voix de Fausset ? Peut-être pas. Mais aussi quand j'ai lu l'écriture de la musique, aussi dans Rameau, quand ça va plus tardif, ils écrivent un peu plus aigu, c'est quand même souvent sous-entendu que ça doit être fort et costaud, donc plutôt en voix de poitrine, donc la voix masculine.
Donc la voix de ténor moderne comme on l'entend à l'heure actuelle.
Disons ça, oui. Il y a toute une théorie quand le ténor chantait pour la première fois les aigus en voix de poitrine et tout ça, mais on sait même que les Italiens qui venaient en France dans le XVIIIe siècle, ils disaient, mais pourquoi ces ténores, ils hurlent tellement dans les aigus ? Et plutôt en Italie, maintenant, quand on pense à la musique italienne, on pense à des voix plus larges. En fait, c'était plutôt en Italie qu'on allait aller vers les aigus en voix de Fausset ou en espèce de voix très allégée, comme ça. Donc, on croit parfois des choses qui ne sont pas tout à fait exactes. Donc, c'était quand même des voix vraiment de ténor. Et bon, après, il y a par exemple sur les disques un air de sommeil. Je le chante en voix de poitrine, mais on ne va pas le hurler non plus. Ce n'est pas le concept d'un sommeil.
Donc, voilà. Absolument.
Donc, on essaie de répondre un peu à ce que la musique nous demande.
Alors, on va poursuivre avec justement « Ah, que le sommeil est charmant », tiré de la tragédie musicale Circé d'Henri de Marais.
Le cœur de
Vous êtes sur Radio Judaïka et vous écoutez Appassionato, votre rendez-vous musical. « Ah, que le sommeil est charmant », tiré de la tragédie musicale Circé d'Henri de Marais. Reinhold von Mechelen, notre invité, était entouré de son ensemble « A nocte temporis » sur un album du label Alpha. Reinhold, comment vous êtes venu l'idée de fonder votre propre ensemble ?
C'était une espèce de besoin de changer de temps en temps un peu de rôle, c'est-à-dire j'adore travailler avec les autres. Avec d'autres chefs, j'ai eu la chance les derniers mois de travailler encore parce que je faisais partie des productions qu'on a filmées, donc qui sont maintenues avec d'autres gens, mais aussi avec mon propre ensemble, on a fait certaines choses. Et de temps en temps, je voulais pouvoir choisir avec qui je travaillais, quelle musique et comment maîtriser en quelque sorte le projet. Donc c'est pour ça. Et aussi, je l'ai fait ensemble avec Anna Besson, donc mon épouse, pour pouvoir faire des projets musicaux ensemble. Donc, c'est quelque chose qui vient pour moi vraiment compléter un peu qui je suis en tant que musicien. J'avais absolument pas besoin de plus de travail parce que j'ai toujours eu la chance d'avoir beaucoup de travail, bon, sauf donc en 2020, mais c'était pour compléter ce besoin. Et finalement, ce n'est pas évident parce que surtout, on cherche plus de problèmes parce qu'il faut trouver les sous, il faut trouver les concerts, il faut trouver les bons gens, il faut organiser l'agenda. Mais de pouvoir mener un groupe, ça me plaît énormément et de pouvoir inspirer des gens autour de moi. Parce que là, quand on entend l'orchestre, il y a des moments même que je dirige. Et c'est... J'aime beaucoup prendre ce rôle aussi, sans pour autant de quitter les projets avec les autres gens. Et ça m'équilibre dans les deux sens. Quand je suis avec les autres, et il y a des choses, bien évidemment, qui ne vont pas comme on veut. Mais du coup, je sais que de l'autre côté, j'ai ce propre projet. Et quand j'ai ce propre projet, il faut prendre quand même beaucoup de responsabilités. Et c'est beaucoup de stress. Je sais qu'il y aura d'autres projets où j'ai un autre rôle qui adoucissent un peu.
Et c'est pas extrêmement difficile de chanter et diriger en même temps ?
En général, ce qui m'arrive quand je chante, sauf le premier jour de la répétition, en général, quand c'est avec orchestre, hein, pas quand on est avec cinq, mais quand c'est avec orchestre, le premier jour, je chante et je dirige en même temps. Mais l'idée, c'est que quand c'est devant des gens, je dirige seulement quand je ne chante pas. Donc, l'orchestre est mené par le premier violon qui montre les choses. Et nous, on est en très bonne communication entre moi et le premier violon pour faire en sorte que tout soit ensemble. Et après, il faut, dans les danses, donc quand je ne chante pas, je dirige. Et il faut surtout que je fasse attention à moi parce que je peux être parfois tellement enthousiaste à diriger que je suis épuisé pour chanter, ce qui n'est pas idéal non plus. Donc ça, mais ça, petit à petit... on apprend comment gérer son énergie, mais c'est passionnant.
Dites-moi, vous avez enregistré avec l'ensemble Vox Luministe Lionel Meunier. Comment l'avez-vous rencontré ?
Oh, quand est-ce qu'on s'est rencontrés ? Ça fait longtemps qu'on s'est déjà rencontrés, mais je pense que la première chose qu'on a fait ensemble, c'est justement la descente Orphée aux Enfers, mais il y a longtemps ailleurs, avec encore un autre ensemble aux Pays-Bas. On a fait aussi des projets de bac ensemble. J'ai chanté du Rameau avec lui. Et donc, c'est aux Pays-Bas finalement, mais c'est lui qui me connaissait déjà. Et on s'est déjà rencontrés quand j'ai fait un projet à La Haye. Il y a très longtemps, il n'avait pas participé, mais on s'était vus. Donc voilà, il savait qui j'étais, moi je savais qui il était. Et on s'est rencontrés petit à petit. Et finalement, ce projet Orphée a eu plusieurs options dans le passé, comment on allait le faire. Mais finalement, on l'a fait ensemble. Avec les deux ensembles réunis. Et voilà, comme ça, on a fait ce projet.
Eh bien, je propose justement d'en écouter un extrait, donc un extrait de La descente d'Orphée aux Enfers de Charpentier, où l'ensemble Vox Luministe Lionel Meunier rejoint l'ensemble A nocte temporis de notre invité, Reinhold von Mechelen. Voici, vous partez donc Orphée.
Thank you.
Un extrait de la descente d'Orphée de Charpentier avec l'ensemble Vox Luminis de Lionel Meunier et l'ensemble Nocte Temporis de notre invité Reinhold van Mechelen. Reinhold, vous abordez aujourd'hui des rôles comme Tamino de La Flûte Enchantée ou Gérald de Lacmé. Quelles sont les différences techniques pour passer du répertoire baroque français à Mozart ou de Lieb? Est-ce que c'est très différent?
C'est une très bonne question et c'est difficile d'en répondre pour les auditeurs dans le sens que c'est très technique. Mais il y a des gens, il y a certains chefs d'orchestre, mais qui ne sont pas chanteurs, qui disent qu'on chante cette musique pas avec la même technique. Moi, en tant que chanteur, la technique vocale me passionne beaucoup et moi, je suis absolument convaincu qu'on la chante avec la même technique. On essaye toujours de chanter en contrôlant sa voix pour aussi faire, pour pas faire mal à la voix pendant qu'on chante. Pour, en quelque sorte, libérer la voix des tensions superflues. Bien évidemment, il y a une forme de tension qui est là quand on chante, mais pas des tensions superflues. Qu'est-ce qui change, c'est... On laisse vibrer la voix, il y a un vibrato qui arrive dans la voix. Dans la musique baroque, pour moi, il est très important qu'on sait le gérer bien, c'est-à-dire qu'on sait, là, je veux vibrer, et là, sur cette note, je ne veux pas vibrer. Ça devient très technique, mais il y a dans la musique des notes qui frottent avec des notes, des tensions musicales, ce qui sont très intéressants. Et quand on met trop de vibrato dessus, ou même quand on met un vibrato dessus, on entend moins ce frottement. Donc, dans la musique baroque, j'essaye vraiment de bien maîtriser ces vibrato. Que je, finalement, dans la musique romantique, je maîtrise aussi, mais je vais en mettre plus. Je vais laisser plus libre la voix de vibrer comme on veut. On doit aussi, mais ça c'est même pas seulement entre la musique baroque et la musique 19e. J'ai enregistré il n'y a pas très longtemps un album de mélodie 19e, mais c'était un enregistrement. Donc, au niveau de volume, on ne doit pas créer beaucoup de volume parce que c'est un enregistrement. Par contre, quand on chante Tamino ou Nadir dans une salle, il faut aussi faire en sorte que la voix projette vraiment très bien et qu'elle passe par-dessus de l'orchestre. Donc, on va faire un effort pour ça. Mais même parfois, quand on chante du Rameau, donc encore de la musique baroque, c'est déjà pas mal costaud, ou même du Lully, avec un orchestre dans la salle. Donc, il y a beaucoup de paramètres qui changent quand je fais chanter une cantate française avec un octet, avec quatre musiciens autour de moi dans une petite église. Ça peut paraître beaucoup ou très inapproprié de la chanter comme si je venais de chanter Nadir sur une scène. Donc, il y a beaucoup de paramètres à maîtriser. Mais donc, pour moi, c'est la même technique, mais qu'on va... Une même espèce de technique physique pour servir la musique, comment elle est le mieux servie. Parce que disons que je fais partie des gens, avec la musique baroque, on joue ce qu'on dit historiquement informé, on joue sur des instruments d'époque ou sur des copies des instruments d'époque, donc on s'inspire de ça. Et même quand je chante d'autres musiques, j'essaie toujours de m'imaginer comment cette musique a sonné à l'époque qu'elle a été écrite. Comment le compositeur l'avait en tête. J'essaie vraiment de me servir de ça. Et même parfois, on est étonné quand on va chercher, même pour la musique romantique, ce n'est pas toujours ce qu'on attend. Donc voilà, j'essaie de mettre ma technique en quelque sorte au service de ça.
Et est-ce que chanter fort est plus dangereux pour la voix que quelque chose de plus instrumental, de plus... ou c'est plutôt une question de diapason?
Oui, on peut aussi en chanter. Tant doux, mais par exemple très aigu, on peut faire très mal à la voix. Et chanter fort, ça, on peut faire très mal à la voix si on le fait d'une façon pas très contrôlée. Moi, j'essaie surtout de bien projeter la voix, c'est-à-dire il y a dans notre crâne, il y a des résonateurs, masque. Il y a des masques, donc on essaye de faire qu'il y a les bons endroits dans le corps qui résonnent déjà pour après faire en sorte qu'il y a les bonnes choses dans la salle, dans l'acoustique qui résonne.
Alors, est-ce que vous estimez que... Dans quelle direction votre voix évolue?
Elle évolue, oui. Et pour le moment encore, l'évolution me va, c'est-à-dire elle prend en ampleur, de force, mais en même temps, je ne veux pas... Donc, c'est pour ça, une des premières questions, c'était... comment définir. Je ne sais pas, on n'a jamais imaginé que je pourrais chanter un grand rôle du répertoire 19e. Mais petit à petit, je me dis, bah, peut-être si. Mais en même temps, j'essaie d'évoluer d'une façon que je ne dois pas laisser derrière moi le répertoire que je peux chanter, c'est-à-dire les rôles d'autres contre, ou aussi l'évangéliste dans une passion, mais de pas, ça m'empêche pour le moment pas de pouvoir chanter un répertoire un peu plus large, un peu plus costaud en quelque sorte. Et c'est, j'essaie vraiment de suivre l'évolution physique, mais en même temps de garder une forme d'agilité et de souplesse dans la voix pour pas que ça devienne costaud, mais d'une façon... un bunker en béton est aussi costaud, mais j'ai pas envie que ma voix ressemble à ça.
Je comprends. Voilà, c'est... Quelle partition vous aimeriez aborder dans un futur proche?
Ah, il y a beaucoup de choses. Il y a pour les projets avec un octet temporis, pour le moment, on va rester plutôt dans les répertoires 17 et 18e. Il y a des opéras inconnus que je lis qui se trouvent en ligne. C'est pas des noms complètement inconnus que je ne vais pas trop dire à la radio parce qu'il faut que ça reste mon idée. Il y a d'autres choses, oui, il y a d'autres opéras. J'aimerais bien faire un peu plus de rôle de Mozart parce que j'ai fait seulement Tamino. Il y a...
Et Belmonte, même et c'était Belmonte, pour les enfants,
oui,
mais
oui,
c'est
oui.
Magnifique.
Voilà, c'était, oui, mais par exemple, faire Belmonte en entier, en allemand, ça j'aimerais beaucoup faire. J'ai fait... Et ça peut... Péléas, j'ai fait des extraits avec piano. C'est un rôle, on dit baryton, et vu que moi, on m'imagine ténor aigu, mais en fait, c'est tellement proche du texte, c'est quelque chose de tellement poétique, et on ne doit pas... Ça, j'aimerais bien refaire un jour, Péléas, c'est tellement...
Nous aussi, on aimerait bien vous écouter là-dedans.
Donc voilà, il y a plusieurs choses, je pourrais dire pas mal de rôles, mais il n'y en a pas... Juste un qui me vient comme ça. Il y a dans Mozart aussi les rôles pour des ténors un peu plus âgés, comme Mithridate. Ça, j'aimerais bien faire un jour. Mozart, il était jeune à l'époque, mais Mithridate est un personnage plutôt âgé, vu qu'il a des enfants adultes. Donc voilà, il y a des choses comme ça que j'ai envie de faire. Mais maintenant, honnêtement, très honnêtement, on attend un peu que les choses aussi se calment pour voir dans quoi on peut se lancer. Hein.
Évidemment, les temps sont un petit peu incertains. Ça. Alors, Reynaud, nous avons comme tradition dans Appassionato d'offrir à notre invité le choix de partager avec nos auditeurs un morceau de son choix. Qu'avez-vous choisi de nous faire entendre?
Oui, donc j'ai choisi de faire entendre la voix de Howard Crook dans Au cimetière, ce qui fait partie des Nuits d'été de Berlioz. Et d'ailleurs, ça rejoint un peu votre dernière question aussi, c'est aussi un répertoire vers lequel j'aimerais bien aller un peu, c'est-à-dire pas forcément que les opéras, mais les mélodies avec orchestre, qu'ici, une voix qu'on connaît du baroque, mais il chante ça à merveille. Et donc parfois, par exemple, j'aimerais bien faire les Nuits d'été. Parfois, on oublie que c'est aussi pour un ténor. La tradition veut que c'est plutôt des mezzo-soprano ou des barytons, mais il se trouve que Berlioz a écrit chaque chanson pour une autre voix, et après il y a des versions transposées pour qu'on puisse tout faire. Donc ça, c'est un répertoire qui me plaît beaucoup, et ça me donnait d'occasion de le faire entendre, en plus avec ce brillant ténor Howard Crook.
Alors nous l'écoutons maintenant. C'était donc au cimetière une mélodie tirée du cycle « Les nuits d'été » d'Hector Berlioz dans l'interprétation d'Howard Crook. L'orchestre de l'Opéra National de Lyon était placé sous la direction de John Elliott Gardiner. Il s'agissait du choix de notre invité, Reinhard van Mechelen. Votre émission de musique classique Appassionato touche ainsi à sa fin. Merci beaucoup, Reinhard van Mechelen, d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
Merci à Carlos Amadjoa d'avoir assuré la technique de cette émission. N'oubliez pas qu'Appassionato est diffusé sur les ondes et le site de Radio Judaïca les lundis à 13h, les mercredis à 14h et les dimanches à 9h. Merci, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.
Retrouvez-nous sur radiojudaïca.be. Retrouvez-nous sur radiojudaïca.be. Oh,
Zizi. Aujourd'hui je suis fatigué. Je t'ai regardé dormir. Et si ma voix peut t'apaiser, je chanterai pour toi toute la nuit. Je t'entends dire à tes bingo d'adjou, je peux plus me passer de lui. Et tout va glisser sur ta peau, c'est comme si je te passais de l'huile. Et s'ils ne sont pas nous, c'est tant pis pour eux. Et s'ils sont jaloux, c'est tant pis pour eux. Fais-le-moi savoir quand c'est douloureux. Je suis là s'il faut encaisser pour nous deux. Et je le sais, je te fais confiance. Quand tu me souris, tu fais pas semblant. J'ai pas besoin d'attendre plus longtemps. Je sais qu'il est temps de partager mon sang. Et d'élever au rang de reine. Au rang de reine, au rang de reine. Je vais t'élever au rang de reine. Au rang de reine, au rang de reine. Oh, oh. L'amour c'est compliqué, mais avec toi c'est plus facile. Continue de rester toi-même, je ne regrette pas de t'avoir choisi. Je l'ai promis à ton papa, je vais prendre soin de sa fille. Tu fais partie de ma famille, Dieu sait combien j'aime ma famille. Et s'ils te demandent, c'est qu'ils sont curieux. S'ils te redemandent, c'est qu'ils sont envieux. Ferme la porte à ceux qui font de leur mieux pour nous empêcher d'être deux quand on sera vieux. Et je le sais, je te fais confiance. Quand tu me souris, tu fais pas semblant. J'ai pas besoin d'attendre plus longtemps. Je sais qu'il est temps de partager mon sang. Et d'élever au rang de reine. Au rang de reine, au rang de reine. Je vais t'élever au rang de reine, oh.
Assez parlé, au bout d'un moment y'a plus les mots. Ça y est, j'ai délaissé mon cœur dans ta paume. Je te laisserai pas t'en aller. C'est mort, j'ai mis du temps à te trouver. Mis à mort celui qui dit qu'on s'est trompé. À tort, on se battra même contre les coups du sort. Assez parlé, au bout d'un moment y'a plus les mots. Ça y est, je te laisserai pas t'en aller. C'est mort, j'ai mis du temps à te trouver. Mis à mort, celui qui dit qu'on s'est trompé. À tort, on se battra même contre les coups du sort. Et je le sais, je te fais confiance. Quand tu me souris, tu fais pas semblant. J'ai pas besoin d'attendre plus longtemps. Je sais qu'il est temps de partager mon sang. Et t'élever au rang de reine. Au rang de reine, au rang de reine. Je vais t'élever au rang de reine. Au rang de reine, au rang de reine.
Laisse-moi t'élever au rang de reine.
Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai, où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas.
un sacré papa. Dis-moi où es-tu caché, ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Qu'on y croit ou pas, y'aura bien un jour où on n'y croira plus. Un jour ou l'autre, on sera tous papa. Et d'un jour à l'autre, on aura disparu. Serons-nous détestables? Serons-nous admirables? Des géniteurs ou des génies? Dites-nous qui donne naissance aux irresponsables, hein? Dites-nous qui? Tiens, tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne sait comment on fait des papas. Monsieur, je sais tout, on aurait hérité, c'est ça. Faut le sucer de son pouce ou quoi? Dites-nous où c'est caché, ça doit faire au moins mille fois qu'on a bouffé nos doigts. Hey. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Papa, dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey, où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es?
To say the first goodbye, had to love and lose 100 million times. Had to get it wrong to know just what I like. Now I'm falling. You say my name like I have never heard before. I'm indecisive, but this time I know for sure. I hope I'm not the only one that feels it all. Game, but you win me every time. Everyone before.
my heart.
Judaïka.
I've been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts, and Spider-Man's control, and Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that list. But she said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this.
Where'd you wanna go?